Une fois de plus, nous nous tenons devant toi, cette fois-ci, Seigneur, pour implorer ta grâce, alors que nous nous apprêtons à écouter ta parole. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, car nous sommes tout à fait conscients du caractère solennel de ces moments. Nous sommes tout à fait conscients, Seigneur, que ta parole reste et demeure cette lampe, Seigneur, qui est là pour nous montrer là où nous devons mettre nos pieds. Ta parole reste cette lumière qui nous éclaire sur le chemin, Seigneur, ô Dieu, alors que nous poursuivons notre pèlerinage ici-bas et en route vers l'éternité. Parle-nous ce matin, Seigneur, permets que ta parole puisse trouver des cœurs disposés à la recevoir, à l'accueillir, mais aussi à la mettre en pratique. Bénis chacun de nous, donne-nous l'intelligence du cœur, l'intelligence qui vient de ton Saint-Esprit pour pouvoir, Seigneur, saisir ta parole et en même temps, bénis ton serviteur alors qu'il s'apprête à proclamer tes oracles. C'est un homme avec ses limites, c'est un homme avec ses faiblesses. Ô Dieu, voilà pourquoi nous nous tournons vers toi pour implorer ta grâce sur lui, par lui et au travers de lui, que tu puisses nous parler. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous allons donc continuer avec notre thème sur les différents ennemis de la foi. Encore une fois, il est important que vous et moi nous comprenions quels sont nos adversaires, quels sont nos ennemis, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer dans la vie, qu'est-ce qui pourrait entraver notre marche par la foi. Car ne l'oublions jamais, c'est dans la mesure où nous marchons par la foi, qu'alors notre vie deviendra agréable au Seigneur. Alors, puisque la foi est fondamentale, puisqu'elle est cet élément essentiel dans notre relation avec le Seigneur, puisque c'est la foi, sa qualité, sa nature, qui détermine ce que nous sommes véritablement, non seulement devant Dieu, mais également ici-bas, alors nous comprenons pourquoi nous avons tout intérêt à connaître les différents ennemis et pour ensuite voir comment nous pouvons résister face aux attaques de la part de tous ces ennemis. Nous sommes donc en train de parler du troisième ennemi, à savoir l'enseignement des fausses doctrines. Voilà un ennemi, mes amis, auquel l'Église de Jésus-Christ a toujours fait face et fait encore face aujourd'hui, alors que nous sommes entrés dans cette période de l'histoire que la parole de Dieu nous révèle comme étant les derniers temps, comme étant la période de l'histoire qui précède le retour en gloire de Jésus-Christ. Et dans une période pareille, vous et moi, mes amis, nous avons tout intérêt à nous tourner sincèrement, à nous tourner humblement vers la parole de Dieu et laisser Dieu nous instruire et non pas essayer de courir ça et là à la recherche d'une vision extra-biblique, à la recherche de ceci ou de cela. L'enseignement de fausses doctrines, ennemi de la foi. Nous allons relire notre texte de 1 Timothée, chapitre 4. C'est donc le troisième épisode, donc par rapport à cet ennemi, ce troisième ennemi de la foi. 1 Timothée, chapitre 4, nous allons lire les deux premiers versets. Et puis ensuite, nous irons dans le livre de Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais commençons d'abord avec Timothée, chapitre 4, 1 Timothée 4, les deux premiers versets. Et ça commence donc par cette déclaration magistrale, solennelle, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs, de faux apôtres, de faux enseignants, etc., marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Et enfin, Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je vous rappelle que Timothée, lorsque l'apôtre Paul lui écrit cet épître, était un jeune pasteur chargé donc de prendre soin de l'église d'Éphèse. Et là, nous sommes dans l'épître que Paul avait écrite à la même église. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, nous dit la Bible, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés, toutes les flèches enflammées du malin ou du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est donc la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Amen. Gloire au Seigneur. Dans son amour pour son Église, cette Église dont il est l'architecte, dans cette Église dont il est le propriétaire suprême, cette Église dont il est la tête, l'Église qui est son corps, oui, dans son amour pour tous ceux qui appartiennent à cette Église, et nous sommes entrés dans son Église, qui n'est pas une organisation religieuse, mes amis, mais plutôt qui est ce corps mystique du Christ, nous sommes entrés dans cette Église par la nouvelle naissance. Personne ne peut prétendre appartenir à Jésus, faire partie de son Église, celle dont il est le chef, celle dont il est la tête, si il n'a pas connu au préalable, s'il n'est pas passé par la nouvelle naissance, qui reste et demeure la condition sine qua non pour être membre du corps du Christ, pour appartenir à cette Église. Oui, dans son amour, pour nous qui appartenons à son Église, pour nous qui sommes ses disciples, eh bien Jésus nous a révélé par sa parole les signes avant-coureurs, les signes précurseurs de son retour en gloire quand il reviendra pour la seconde fois chercher son Église alors qu'il s'arrêtera sur le nuée. Oui, dans son amour, et afin de nous aider, mes amis, à veiller, à être vigilants, à connaître un peu le temps, les périodes, les jours qui précéderont son retour en gloire, le Seigneur nous a laissé des signes qui précéderont sa venue en gloire. Comme lui-même le dit dans Luc chapitre 21, « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et beaucoup de gloire. » Alléluia. Mes amis, il y a un événement extraordinaire qui est devant nous. Il y a quelque chose de glorieux qui est devant nous. C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la trompette sonnera et que les morts ressusciteront, ceux qui seront vivants seront transformés, métamorphosés en un clin d'œil, et tous iront rejoindre le Seigneur sur le nuée, au milieu d'une gloire, au milieu d'une puissance redoutable et indescriptible. Alléluia. Il reviendra, ça c'est sûr. Et le retour du Seigneur a toujours été l'espérance de son Église. Au point où les premiers disciples se saluaient par « Maranatha, Seigneur viens » ou « Que le Seigneur revienne, gloire à Dieu ». Il revient. Et pour nous permettre, mes amis, de discerner la période qui précédera son retour et nous aider à mieux résister, à rester davantage attachés à lui, le Seigneur nous a révélé toutes sortes de signes précurseurs, des signes avant-coureurs ou des signes prodromiques qui précéderont son retour en gloire. Et comme je l'ai dit la fois dernière, le dimanche dernier, Je citais la parole de quelqu'un qui l'a dit à juste titre. Cet homme a dit que les événements qui arrivent sont précédés par leurs ombres. Voyez-vous? Voyez? Donc, il y a devant nous un grand événement, un événement glorieux. Et cet événement sera précédé ou est précédé par son ombre. Quelle est l'ombre de cet événement glorieux, de ce retour du Seigneur dans la gloire, mes amis? Eh bien, ce sont tous ces signes avant-coureurs, tout ce qu'il nous a laissé comme signes qui précéderont son retour. Tout cela constitue cette ombre. Et en voyant ces signes-là, nous voyons l'ombre de son retour. Et cela devrait, mes amis, nous aider à veiller, à être vigilants. Car il peut arriver à n'importe quel moment. Lisez la parole de Dieu et vous réaliserez que nous vivons des temps tout à fait particuliers. Des temps qui précéderont son retour en gloire. Donc, l'ombre de cet événement n'est autre que ces signes avant-coureurs, ces signes qu'il a annoncés et qui précéderont son retour. Et parmi ces signes avant-coureurs de son retour, nous venons de les lire, et ça fait quelques dimanches que nous nous lisons dans 1 Timothée chapitre 4, eh bien il y a l'apostasie, c'est-à-dire le reniement de la foi par certains croyants, par certains chrétiens. C'est donc un phénomène que le Seigneur décrit comme une caractéristique de la fin de temps, une caractéristique, eh bien, de la période qui précédera son retour. Nous l'avons lu, et l'apôtre cite le Saint-Esprit qui dit expressément que dans les derniers temps, eh bien, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons. Voyez-vous? Et quand on regarde aujourd'hui, mes amis, à l'Église de Jésus-Christ, quand on fait une sorte de radioscopie morale et spirituelle, eh bien on arrive à la conclusion que jamais on a vu les gens apostasier comme aujourd'hui. Certes, ils ont toujours le nom du Seigneur dans leur bouche. Certes, ils ont leur Bible sous les aisselles, mais en réalité, ils l'ont renié par leur vie. En réalité, ils se sont détachés de la véritable foi, celle que les apôtres nous ont léguée. Oui, l'apostasie, le reniement, l'abandon de la foi est une des caractéristiques des derniers temps. Abandon de la foi de la part de certains croyants, de la part de certains chrétiens, pour s'attacher malheureusement, hélas, à des esprits séducteurs et à des doctrines d'inspiration satanique. Mais pour pouvoir s'attacher à quelque chose, il faut d'abord se détacher au préalable d'autre chose, d'une chose, oui ou non. Donc, on se détache du Christ, on se détache de sa doctrine, on se détache des enseignements du Christ, tels que les apôtres nous les ont légués, on se détache, mes amis, de ces vrais enseignements qui ont un fondement biblique. On se détache de tout cela pour s'attacher à des esprits séducteurs au travers de faux enseignements, au travers de fausses doctrines, au travers des pratiques qui n'ont jamais été inspirées par la parole de Dieu. J'en ai épinglé quelques-unes, mes amis, toutes ces pratiques aujourd'hui qu'on trouve dans les assemblées. Où on vend l'huile, soi-disant, l'huile de guérison, l'huile d'onction, où on fait boire aux gens de l'eau salée ou mélangée à du pétrole ou à du mazout, au lieu de pousser les gens à se jeter dans le bras du Seigneur, au lieu de pousser les gens, mes amis, à s'asseoir sur la parole de Dieu, non, on détache les gens de l'enseignement des apôtres et on les conduit tout droit dans les bras des démons. Sous l'influence de ces esprits démoniaques, la Bible nous dit que les gens abandonneront la foi. Et ici, comme je l'ai souligné la fois dernière, le terme foi a un sens objectif. Il désigne donc le message apostolique. Il désigne donc la saine doctrine. Il désigne l'enseignement des bases, tel que le Seigneur nous l'a légué au travers des évangiles, mais aussi enseignement développé plus tard par ses saints apôtres. Voyez-vous ? Les gens se détacheront de tout cela. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Voyez-vous ? Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion sur les conséquences terribles de l'abandon de la foi, du reniement de la foi, de ce que nous appelons en termes techniques de l'apostasie, j'aimerais que nous posions quelques questions. Le diable peut utiliser, et il a dans son carquois plusieurs flèches pour attaquer l'Église, pour détruire l'Église. Il peut utiliser l'immoralité, il peut utiliser le mensonge, il peut utiliser tant de vices, tant de travers pour essayer de ralentir l'Église. Mais pourquoi ? Pourquoi alors cette attaque contre la foi ? Pourquoi ces esprits séducteurs s'attaquent-ils à la foi ? Pourquoi arrive-t-il à tordre la parole de Dieu, à la falsifier, à la corroder, à la corrompre ? Pourquoi le diable, via ses esprits séducteurs, suscite-t-il de faux enseignants, de faux docteurs, de faux prophètes dans l'Église de Jésus-Christ ? Pourquoi tout cela ? Pourquoi l'enseignement, la saine doctrine et la foi ? Il a mille et une façons d'attaquer l'Église, il l'a toujours fait. Mais ici, l'accent est mis, mes amis, sur la foi et sur l'enseignement de la parole. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul avait dit aux anciens d'Éphèse. Voyez-vous, cette Église a connu pas mal de problèmes. Cette Église était dans le collimateur des pouvoirs et des puissances de ténèbres. Cette Église était dans l'œil du cyclone démoniaque, du cyclone satanique, voyez-vous. Parce que Paul l'a implanté dans une ville, mes amis, qui était vouée totalement, entièrement à Artémis ou Diane d'Éphèse. C'était une idole, mes amis. Et son simulacre et son temple étaient considérés comme l'une des sept merveilles de l'Antiquité. Les gens partaient de partout pour aller offrir à cette déesse. Mais nous savons, nous, grâce à la parole de Dieu, que derrière cette idolâtrie, eh bien, il y a les démons, voyez-vous. C'était donc des cultes, c'était un culte voué aux démons, et au-delà des démons, voué à Satan lui-même. Et voilà que l'apôtre Paul arrive. Il prêche l'évangile du Christ, alléluia. Une église voit le jour. Au milieu de ces épaisses ténèbres, la lumière a jailli, non pas une fois, mais la lumière a fini par demeurer. Une église a vu le jour. Et pour le diable, mes amis, il n'était pas du tout question d'abdiquer, question de partir. Il fallait absolument attaquer cette église. Il fallait l'empêcher de progresser. Vous comprenez pourquoi Paul parle des armes du chrétien lorsqu'il écrit aux Éphésiens. Souvenez-vous de ce que, avant même qu'il écrive tout cela, il avait dit aux anciens d'Éphèse, alors qu'il était en route vers Jérusalem, il les avait fait venir à Milet. Il les avait mis en garde. Il leur avait donné une prophétie. Il leur avait dit, parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, des prédateurs des ténèbres qui n'épargneront pas le troupeau, c'est-à-dire le troupeau du Seigneur. Il leur avait dit cela, que des loups viendront, des loups redoutables, des rapaces, des requins des ténèbres, des crocodiles des ténèbres viendront pour attaquer le troupeau du Seigneur. Faites attention. Et il ajoute, et du milieu de vous, les loups viennent de l'extérieur pour détruire, mes amis, les brebis du Seigneur. Mais pour arriver dans la bergerie, Ils se déguisent, n'est-ce pas, en brebis. Mais à l'intérieur, des véritables rapaces, des véritables prédateurs. Vous voyez? Mais il dit aussi, du milieu de vous, parmi vous, des hommes s'élèveront, voyez-vous, et prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples de Jésus-Christ après eux. Non pas entraîner, pousser les disciples à rester attachés à Christ, mais plutôt les entraîner après eux. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, oui ou non? Regardez tous ces prophètes, regardez tous ces pasteurs qui ont fini par infantiliser leurs fidèles. Les fidèles ne peuvent rien faire sans l'aval de leur pasteur. Le pasteur est omniprésent. Ils ne peuvent pas décider s'ils n'ont pas reçu une vision de la part de la prophétesse, de la part je ne sais de qui. Cette dépendance ne vient pas de Dieu. Car le Seigneur voudrait que nous croissions, que nous atteignions la maturité et que nous arrivions nous-mêmes à prendre des décisions et non pas à dépendre cette espèce de prophético-dépendance et l'œuvre des esprits séducteurs. Car cette dépendance amène les gens à s'appuyer sur des hommes et non pas sur celui qui est assis sur le trône. Nous devons condamner ces pratiques. La guérison ne se trouve pas dans un flacon d'huile d'olive. Non! La guérison ne se trouve pas dans cette bassine d'eau, comme je l'ai dit. Les gens ont des problèmes. Ils sont conscients de la malédiction qui pèse sur eux, mes amis. Ils sont sous la malédiction et ils ont besoin de délivrance. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de les amener à Christ, au lieu de leur dire Jésus a tout pris à la croix, non! On prend un bassin d'eau. On le remplit donc, on demande à ces braves gens, à ces femmes de se déshabiller, et puis on les plonge dans un bassin, soi-disant pour être purifiés. C'est démoniaque. Nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Nous avons foi dans ce que Jésus a fait. L'eau ne purifie pas, ne peut pas enlever la malédiction. Alors, celui qui fait ça, et sous l'inspiration de ces esprits séducteurs. Car, au lieu d'amener les gens vers Christ, il les en détourne, n'est-ce pas? Il les amène vers un bassin d'eau. Au lieu d'amener les gens à croire dans l'œuvre que Jésus accomplit à la croix pour leur guérison, leur délivrance, non, on leur propose des flacons d'huile, huile d'olive. Et je comprends que certains pasteurs aujourd'hui et de là, beaucoup d'argent, de véritables sommes d'affaires. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des flacons qui coûtent $100, hein. Alors imaginez-vous un peu si monsieur arrive à écouler ne serait-ce que 50 flacons, ça fait combien? C'est un bon pactole, hein. C'est un bon pactole, hein. Vous voyez, mes amis, des loups redoutables qui viennent dans l'église, mais aussi de l'église, des gens s'élèvent. Du jour au lendemain, quelqu'un se lève en disant « Dieu m'a parlé. Dans cette église, il n'y a pas d'onction. Dans cette église, Dieu n'agit pas. » Et il entraîne des gens avec lui. On l'a déjà vu. Mes amis, ça s'est passé dans le passé. C'est arrivé dans le passé et ça arrive encore aujourd'hui. C'est ainsi que les églises naissent partout. Voyez-vous, comme des champignons. Dans chaque rue. À chaque coin des avenues, vous avez des églises. Mais quel est l'impact de toutes ces églises sur le plan moral? Nous avons de plus en plus une classe politique corrompue. De plus en plus des hommes et des femmes qui se livrent à l'occultisme, qui sont esclaves de la magie. Et dans tout cela, il y a des églises partout. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que toutes ces églises ne sont pas inspirées par Dieu. Nous le savons tous. Hein. C'est comme des petits lits gabelots. Voyez-vous, voilà, aujourd'hui, pour mieux vivre, eh bien, fais-toi pasteur. Hein. Comme quelqu'un qui avait dit à son fils, écoutez, tu as été à l'université, ça n'a pas marché, eh bien, va à l'école biblique, comme ça tu deviendras pasteur. Voilà. Et les gens s'élèvent, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Moi, je veux bien, mes amis. Je sais que Dieu appelle encore. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont véritablement appelés. Mais beaucoup se sont appelés. Eux-mêmes. Ou alors ils ont été appelés par l'Église. Ils ont été appelés par l'oncle, qui est évêque. Ah, voilà. L'oncle qui a plusieurs églises à gauche, à droite, et dit, toi, tu dois devenir pasteur, hein? Voilà. On va chez l'oncle. Ou alors c'est la maman qui intercède auprès de son frère. Mais mon frère, toi tu es évêque. Mon fils ici n'a rien. Prends-le comme pasteur. Oui, oui, oui. Bon, ok, je t'envoie à Bandal. Voilà. Et c'est ce qui tue l'Église. Voyez-vous. C'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de distractions, de la distraction, de la séduction. Pourquoi ces esprits séducteurs s'attaquent-ils à la doctrine et à la foi? En d'autres mots, pourquoi Satan s'attaque-t-il à la saine doctrine? Car derrière tous ces esprits séducteurs, ces démons, il y a leur chef, l'incarnation suprême du mal et de tout ce qui est mauvais, à savoir Satan. Pourquoi alors Satan s'attaque-t-il à la saine doctrine? S'attaque-t-il à la parole de Dieu? Le christianisme est le seul mouvement au sein duquel on trouve tant de courants, tant de croyances, tant de dénominations, tant d'églises. Oui ou non? Faites le tour, ne serait-ce que de notre ville, vous verrez. Maintenant, on parle d'un Jésus noir. Voilà. Comme si le Christ qui est venu, il y a 2000 ans, était venu seulement pour les Blancs. Quelle aberration! Quelle folie! Vous voyez? Vous avez les catholiques, vous avez les orthodoxes, vous avez les kimbanguistes, vous avez les pentecôtistes, vous avez quoi encore? Pevialongo. Comment? Vous avez les kimbanguistes, les baptistes, voilà. Les baptistes, les pentecôtistes, tout ça au sein du christianisme. C'est qu'il y a un problème. Et en même temps, c'est qu'il y a quelque chose de vrai dans le christianisme. Pourquoi l'ennemi s'acharne tant? On ne trouve pas autant de sectes dans d'autres religions. Il y a des courants, le courant ceci, le courant cela, comme dans le judaïsme. Voyez-vous, il y a eu en marge du judaïsme des rabbins qui ont développé toutes sortes de théories ésotériques qu'on trouve dans la Kabbale et tout ça. Mais au sein du christianisme, mes amis, il y a tant d'églises, tant de mouvements, c'est qu'il y a un problème. Eh bien, pourquoi tout cela? Eh bien, parce que Satan a une stratégie pour séduire l'homme et l'éloigner de Dieu. Satan a une stratégie pour empêcher l'Église d'avancer. Voyez-vous, Satan a sa tactique. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il a toujours utilisé cette tactique-là. Laquelle? Quand il se tourne vers la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 1er, il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il essaye de semer le doute pour détacher les gens de la parole de Dieu et les amener à autre chose que la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voyez-vous? Non! Vous savez, dans la Bible, il y a un code secret. Oh, vous savez, dans la Bible, il y a des choses cachées. Alors, on essaye de recourir à la numérologie. On essaye de... c'est une pratique qu'on appelle la guématrie ou la gématrie, qui existait déjà. Les empereurs romains, à une certaine époque, un empereur, pour se marier, comme ils étaient très superstitieux, ils prenaient le nom de la femme et on donnait à chaque lettre une valeur numérique. Et on additionnait. Donc, pour que l'empereur prenne cette femme, il fallait que la sommation de tous ces chiffres donne tel chiffre ou tel autre chiffre. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, on essaye de fouiller. Voyez-vous, comme je l'avais dit, l'ordre selon Melchisédek, vous savez, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non ! Nous sommes sauvés non pas par la connaissance, mais nous sommes sauvés par notre foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il faut faire attention à cette espèce de gnosticisme qui revient, qui avait déjà été un véritable cancer pour l'Église dans le passé. Mes amis, Satan et tous ses démons connaissent l'importance, connaissent la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il envoie ces esprits séducteurs qui répandent de fausses doctrines afin de faire abandonner la foi aux gens. Ils viennent, ils essayent d'échafauder des systèmes de pensée qui sont d'apparence très séduisants, surtout pour les intellectuels. Voyez-vous, donc on utilise une certaine terminologie, vous savez, comme ceux qui sont dans certaines branches de la franc-maçonnerie, le livre perdu de Thoth, la divinité égyptienne, pour ceux qui ont étudié l'histoire de l'Égypte. Ces livres disparus il y a 5000 ans, vous savez, il est réapparu à un moment, et dans ce livre, il y a tel mystère, voyez, et ça séduit. Pour être puissant, il faut les lire, il faut faire ceci. Et dans la plupart des cas, c'est des pensées licencieuses. Oui. Il connaît tout cela. Alors il essaye de nous distraire par toutes sortes d'enseignements. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu déclare, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et quand on sait que derrière le monde il y a Satan, donc tout ce qui est né de Dieu triomphe de Satan. Et la Bible d'ajouter la victoire qui triomphe du monde. Et par-delà le monde, la victoire qui triomphe de Satan, c'est notre foi. Vous comprenez pourquoi il attaque notre foi? Parce qu'il sait que si nous demeurons dans l'enseignement de Jésus uniquement, notre foi va grandir. Et notre foi étant grande, nous pourrions alors mieux lui résister. Non seulement lui résister, le mettre en déroute. C'est donc pour nous affaiblir. C'est donc pour nous empêcher de demeurer par la foi dans la victoire que Christ nous a acquise, que tous ces agents des ténèbres, ces esprits séducteurs, se sont emparés de certaines personnes au sein de l'Église, ou alors des personnes hors de l'Église, pour répandre des fausses doctrines et ainsi affaiblir les gens qui font partie de l'Église. Ils suscitent de faux enseignants, à qui ils donnent une sorte d'anti-onction. Eh oui, attention, la Bible nous dit et nous met en garde, Satan se déguise en ange de lumière. Quelqu'un qui est ténèbre arrive par la ruse, par la tromperie, par son intelligence, à faire croire au monde qu'il est la lumière, alors qu'en réalité, il est ténèbre. Tout ça pour dire que nous avons affaire à un esprit plus puissant que nous, un esprit plus intelligent, car quelquefois on pense que Satan est un abruti. Non ! Il nous connaît, mes amis. Il sait comment nous avoir. Mais grâce soit rendue à Dieu, dès qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Christ a triomphé de Satan à Golgotha, et il le sait très bien. Voilà pourquoi il amène les gens, par toutes sortes d'enseignements, à bypasser, à contourner l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce qu'à la croix, tout a été accompli. À la croix, Jésus a dépouillé les autorités démoniaques. À la croix, Jésus a écrasé Satan. Alors, il faut amener les gens à ne pas croire. C'est ainsi que dans certaines religions, on veut bien accepter que Jésus est un grand maître, on veut bien accepter que Jésus est un prophète, mais jamais qu'il serait mort. Pourquoi? Parce que c'est la mort de Jésus qui nous délivre. C'est la mort de Jésus qui nous sauve. Alors pour maintenir les gens dans l'erreur, on bypasse, on contourne cette doctrine de la mort de Jésus qui est pleinement suffisante pour le salut de l'humanité. Ces faux enseignements, mes amis, atrophient notre foi. Ces faux enseignements sclérosent Mes amis, notre vie, ces faux enseignements chloroforment, anesthésient l'Église. Ces faux enseignements rendent l'Église moribonde et la plongent dans un état de mort cérébrale. Et aujourd'hui, mes amis, nous assistons à cela. L'Église est incapable de faire peur au diable. L'Église n'est plus une menace pour le diable. Non. Voilà. Il y en a qui viennent chercher des femmes à l'Église. Non pas pour le mariage, hein. Des concubines, des concubins. Ah, dans votre Église, il y a des belles filles. Nakoyana, non. Voilà. Voyez-vous. Oh, il y a des beaux hommes là-bas, ils ont beaucoup d'argent. Il faudra que je vienne un peu en piocher, hein. Parce que l'Église ne fait plus peur. L'Église n'est plus ce feu qui brûle tout et qui brûlait tout comme à l'époque. Lisez le livre des Actes. C'est le même Jésus qu'aujourd'hui, mes amis. Et pourtant, cette Église du livre des Actes a été une Église conquérante. Une Église qui a écrasé tout sur son passage. Rien n'a pu l'arrêter, même pas la persécution. Quand on en tuait un au nom de Jésus, 10 se levaient pour confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais aujourd'hui, nous tremblons. Nous avons peur. Peur de sorciers. C'est la preuve que nous n'avons pas une véritable foi. Peur de petits missiles qui viendraient des ténèbres. Comment ? Ça montre que nous n'avons pas de bouclier. Parce que quelqu'un qui est protégé comme il faut, avec tous les systèmes perfectionnés, capables d'intercepter n'importe quel projectile, eh bien, dormirait calmement, tranquillement. Oh, alléluia. Voilà pourquoi le diable, via ses agents, cherche à diluer, cherche à falsifier, cherche à corrompre la parole de Dieu par de faux enseignements. Restez avec vos yeux fixés sur Jésus et Jésus seul. Asseyez-vous sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Cette œuvre, mes amis, est pleinement suffisante. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus a fait. Il a dit lui-même, tout est accompli. Tout ce qu'il entend de nous, que nous croyons. Ainsi, lorsqu'on s'expose à ces enseignements pervertis, à ces enseignements frelatés, eh bien, on arrive malheureusement à se détacher petit à petit de la foi, à se détacher petit à petit de l'enseignement des bases, tel que nous le trouvons dans la parole de Dieu, pour s'attacher malheureusement à des esprits démoniaques, à des doctrines de l'incrédulité et de la mort. Et avec l'apostasie, c'est-à-dire avec le reniement, l'abandon de la foi, on se met inévitablement sous la domination des puissances démoniaques, des forces malfaisantes. Mes amis, il est important avant de terminer que nous prenions conscience du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés et dont l'enjeu majeur n'est autre que le salut de nos âmes. Le diable voudrait nous empêcher d'arriver un jour dans le ciel de gloire de notre Sauveur bien-aimé. Le diable est jaloux. Le diable est rempli de haine. Il voudrait passer le reste de l'éternité avec l'humanité tout entière. Et lorsque quelqu'un arrive à lui échapper, eh bien, il fait tout pour le récupérer. Il fait tout. Soyons conscients que nous sommes engagés dans un combat. Et par rapport à ce combat, nous devons savoir que c'est dans la volonté de Dieu, que c'est la volonté de Dieu que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés, alléluia, à savoir Jésus-Christ. Le Seigneur nous destine à la victoire, c'est sa volonté, mes amis. Or, dans les affrontements avec les démons, dans les affrontements avec ces puissances des ténèbres, nous avons plus que jamais besoin d'utiliser toutes les armes que le Seigneur a mises à notre disposition. Alléluia. Et particulièrement et singulièrement, nous avons besoin
du bouclier de la foi. Nous l'avons lu, mes amis. Et de l'épée de l'esprit qui est donc la parole de Dieu. Jésus a vaincu tout le coup du diable en utilisant l'épée de l'esprit, à savoir la parole. Lisez Luc chapitre 4, le 17, le 12, premier verset, vous allez voir par exemple. Le diable vient pour le tenter. Il était en jeûne, il était en prière dans ce désert. Il lui dit, bon, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres pour qu'elles deviennent du pain. Comment le Seigneur lui répond? Il est écrit, oh alléluia. Il revient, fais ceci, fais cela. Il dit, il est écrit. C'est donc avec la parole de Dieu, qui est l'esprit, l'épée de l'esprit, qu'il est arrivé à vaincre Satan dans ce face-à-face, dans le désert. Il a utilisé l'épée de l'esprit. Eh bien, vous comprenez pourquoi il attaque la parole de Dieu. Car une fois que vous acceptez le faux enseignement, vous lâchez l'épée de l'esprit, la vraie parole, vous vous retrouvez avec un morceau, un branchage, un petit morceau de bois de rien du tout. Et avec ça, vous ne pourriez pas mettre en déroute les démons. Il faut la véritable épée de l'esprit. La parole de Dieu citée à la fois. J'avais déjà exploité ça il y a quelques années d'ici au cours d'un séminaire. La parole de Dieu qui nous est présentée à la fois comme une arme offensive, une arme défensive, mais la parole de Dieu nous est aussi présentée comme étant une armure, la ceinture de la vérité. Quand l'apôtre Paul utilise l'image du soldat romain, il savait que le soldat romain avait besoin d'une ceinture. Grâce à cette ceinture, eh bien, tous les éléments de l'armure pouvaient rester ensemble, voyez, et ainsi permettre aux soldats de les utiliser. La parole de Dieu n'est-elle pas la vérité? Oh, alléluia! La parole écrite, la Bible, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et lui-même s'est présenté comme étant la vérité vivante. Jean 14, 6. Jésus dit, moi, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Oh, alléluia. Jésus, voyez, voilà pourquoi le diable cherche à introduire de fausses doctrines pour nous affaiblir, pour nous empêcher de manier correctement l'épée de l'esprit, pour nous détacher. Lorsque nous n'avons plus la ceinture de la vérité, eh bien, il n'y a plus moyen de tenir. Vous voyez, tout l'ensemble de l'armure est là. Il peut facilement prendre l'avantage sur nous. En conclusion, nous devons tous rechercher la sagesse et la direction du Saint-Esprit dans notre marche avec Dieu et ainsi demeurer dans sa victoire. Car nous sommes un peuple, je dis bien en Jésus-Christ, nous sommes un peuple condamné à la victoire, destiné à la victoire. Or, cette recherche-là passe immanquablement par la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous mettre à la recherche de Dieu si vous ne vous mettez pas à rechercher Dieu dans sa parole. Voyez-vous? Donc, inéluctablement, immanquablement, la recherche de la direction du Saint-Esprit, la recherche de la manière de la victoire, tout cela passe, mes amis, par la parole de Dieu. Et pour que cela soit réel, soit évident, eh bien, nous devons reconnaître l'inspiration et l'infaillibilité de l'Écriture sainte. Si quelqu'un vient te dire, non, dans la Bible, là, ceci n'est pas vrai. Ne cherche pas à discuter. Ce sont des gens qui sont rodés, dont l'intelligence a été retournée à plusieurs reprises dans la poêle démoniaque. Et ils sont bien outillés. Hein. Ils ont des arguments pour vous perturber. Voyez-vous, n'acceptez pas. 2 Timothée 3:16. Mémorisez ce passage. Je voudrais qu'on me l'affiche. 2 Timothée 3:16. Toute écriture, pas une partie, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, tel que nous les avons, constitue ce que la parole appelle l'écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour rééduquer dans la justice. Oh, alléluia! L'écriture sainte, c'est suffit par elle-même. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher d'autres enseignements ailleurs. Lisez la Bible et Dieu vous bénira. Lisez la Bible et vous demeurerez dans la vérité. Oh, alléluia! Considérez l'écriture sainte comme l'unique, comme l'autorité unique, mes amis, et définitive en matière de morale et de foi. Je dis bien autorité définitive. Qu'on ne vienne pas vous dire non, 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 non. Ça, c'est une nouvelle révélation que Dieu a amenée. Comme si la première ne suffisait pas. Non. Jésus a dit quoi? Tout est à. S'il savait qu'une nouvelle doctrine viendrait pour compléter ce que lui a dit, il aurait pu dire, tout est accompli, mais attendez encore. Non! Ce qui vient après là vient du diable, vient de l'homme. Et parce que ça vient de l'homme, nous devons le rejeter absolument. Mes amis, vous comprenez pourquoi le diable attaque la foi et attaque la parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Alors restez attachés à sa parole. Acclamons le nom du Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu, pour ta parole. Nous voulons que tu nous aides à rester attachés à toi et à toi seul, à utiliser ta parole comme l'épée de l'esprit, mais également, Seigneur, à faire preuve du bouclier de la foi, qui seul est capable, ô Dieu, d'éteindre tous les traits enflammés, toutes les flèches qui nous viennent du monde des ténèbres. Le vrai bouclier est en toi. Le vrai bouclier est dans ta parole. Alors donne-nous de l'aimer et de la chérir par-dessus tout. Merci Seigneur.